Ne manquez pas le balado « Relève-toi », présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866-APPEL. Ensemble, tissons l'espoir.
Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à l'épisode 18 de cette troisième saison du balado Sortie de zone, en collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous, Alexandre Pratt. Salut Alexandre!
Salut!
Nous avons également Guillaume Lefrançois. Salut Guillaume!
Salut JR!
Et également avec nous pour le 98.5 FM, Stéphane White. Salut Stéphane!
Salut les gars!
Bon messieurs, savez-vous ce qui est intéressant, c'est que malgré le fait que c'est un balado que vous pouvez écouter quand vous voulez, nous, avant que ça commence, nous devons être à jour dans l'information. Et là, notre ami Guillaume Lefrançois a fait en sorte que nous sommes rendus maintenant à la version 6 des sujets de conversation du balado. Bon, débutons avec Guillaume. Guillaume, t'es arrivé avec une information qui a l'effet que Bob Gainey sera du comité de sélection pour le futur directeur général du Canadien. Raconte-nous, là.
C'est ça. En fait, c'est rappelez-vous, samedi soir, Jeff Gorton avait parlé justement qu'il allait avoir un comité qui allait l'aider à choisir le prochain directeur général. Alors, on ne connaît pas l'identité pour le moment des membres de ce comité-là, mais on en connaît maintenant un, c'est Bob Gainey. Donc, c'est Jeff Molson qui l'a contacté pour lui demander de venir donner un petit coup de main. Donc, quand même une nouvelle intéressante. Bob Gainey qui a été DG du Canadien pendant 7 ans. C'est la deuxième fois que Jeff Molson procède comme ça parce que quand ils avaient embauché Marc Bergevin, ben même chose, ils avaient demandé à Serge Savard de le conseiller. Ça avait plus ou moins bien fini, donc j'imagine que Jeff Molson va espérer que ça finisse mieux cette fois-ci et qu'il se ramasse pas avec 5 ans d'articles de nouvelles de Bob Gainey qui critique son administration.
Alexandre, ta réaction là-dessus, tu penses quoi de ça, Bob Gainey?
Ben, en fait, Bob Gainey est revenu un petit peu dès l'été dernier dans l'entourage de l'équipe. Il avait fait un discours pendant les séries éliminatoires dans le vestiaire. Donc, c'est un des anciens qui veulent revenir. Moi, je suis vraiment en faveur des anciens qui reviennent dans le giron du Canadien. Je trouve que dans les 10 dernières années, ils ont quand même beaucoup été tassés de l'organisation. Puis c'est un petit peu perdre ses repères, je trouve, quand on tasse les anciens comme ça a été fait. Fait que je suis plutôt heureux de voir que le Canadien va un petit peu jeune dans le passé. Ce que je suis plutôt étonné, c'est le choix en fait de Bob Gainey, qui est une personne très respectée. Maintenant, est-ce qu'il représente le futur de l'organisation ou même les nouvelles mentalités de la Ligue nationale? Ça, j'en suis beaucoup moins certain. Surtout que Gorton se présente, lui, comme le candidat du changement. T'sais, on veut faire plus appel aux études sur les statistiques avancées. Même la psychologie. Il a parlé de la psychologie, il a parlé de la nutrition. On est loin, je pense, des années 70 avec ça. Donc, est-ce que Gainey va jouer la caution un petit peu plus conservatrice dans ce comité-là? Peut-être, mais j'ai pas l'impression du tout que Gorton ou Molson vont faire leur choix à partir d'un candidat qui a peut-être un profil un peu plus conservateur. Là.
Stéphane, t'en penses quoi, toi?
Ben moi je trouve que c'est une belle nomination. Écoute, faut que tu te serves de ces gars-là. Et puis c'est pas eux autres qui vont changer rien dans le day-to-day, mais c'est un bon conseiller pour Jeff Gorton. Moi, je pense que ça aurait été bon. On parle de l'expérience avec Serge Savard. J'aurais aimé, moi, qu'on garde Serge Savard à ce temps-là comme conseiller. Pour conseiller à Jeff Molson et à Marc Bergevin. Et puis ces gars-là, mais écoute, ils ont des belles expériences. Gainey connaît le marché comme joueur, comme GM, un gars comme Alex a dit, très respecté. Et puis j'aime ça.
Ce qui, tu sais, ce qu'il faut pas oublier aussi, tu sais, Bob Gainey a quand même donné les premières chances à Guy Carbonneau puis à Guy Boucher comme entraîneur. C'est Bob Gainey qui avait rentré Guy Boucher à Hamilton. Donc, c'est quand même une ouverture de ce côté-là. Ensuite de ça, pour la question de justement de think outside the box, comme ils disent, ben, c'est pas parce que Gainey est dans le comité qu'ils vont nécessairement se borner. Jeff Gorton a suggéré, par exemple, peut-être un agent. Tu sais, puis on le sait depuis, le nom de Kent Hughes a circulé. Il y aura peut-être d'autres noms d'agents qui vont circuler. Mais Bob Gainey a quand même été DG dans la Ligue nationale pendant une vingtaine d'années. À part peut-être les plus jeunes agents, il doit quand même en connaître plusieurs là, qui sont encore là. Donc, tu sais,
C'est quelqu'un qui a quand même une sensibilité aussi pour le marché local. Mm-hmm. Ça a beaucoup été répété dans les derniers jours, parce que le Canadien va reconnecter un petit peu plus là, avec son marché local, avec le Québec, la Ligue d'hockey junior majeur du Québec. T'sais, sous Gainey, il y en avait quand même des joueurs locaux. Puis Gainey, justement, a donné une chance à des entraîneurs québécois, du personnel québécois aussi un petit peu partout. Donc, il va peut-être amener ça au comité, parce que Gorton, finalement, oui, il connaît le junior majeur pour l'avoir dépisté. Là, comme dépisteur, il a quand même repêché beaucoup de joueurs du junior majeur québécois. Mais si c'est pas quelqu'un qui a ses antennes sur la culture québécoise, c'est gagner un petit peu plus d'acuité là-dessus. Ben,
mais messieurs, ouais. Moi, je vais vous dire juste une chose, c'est que vous n'étiez pas à l'animation de Tribune téléphonique quand Bob Gainey était directeur général, parce qu'à la fin, c'était pas le gars le plus populaire au monde. Fait que donc...
Mais il y a aucun DG qui l'est à la fin.
Ah, mais t'as raison, t'as raison. Mais plusieurs lui reprochaient justement d'être ancré dans les bases très, très solides du Canadien de Montréal, tu sais. Fait que donc, à partir de là, est-ce qu'on pourrait voir, je dis pas que c'est mon opinion, mais est-ce qu'on pourrait voir le fait qu'on amène Gainey, on pourrait voir un certain manque d'ouverture. Je ne sais pas comment les gens réagissent. C'est pas, est-ce que vous avez regardé un peu sur les réseaux sociaux comment on réagit?
Ben c'est ça. C'est pas accueilli favorablement pour le moment, mais c'est ça. D'un autre côté, tu sais, je pense que c'est un bon contrepoids, parce que là, c'est ça, tu rentres Jeff Gorton, qui est un Américain, un gars de Boston qui n'a jamais travaillé vraiment au Canada, qui ne connaît pas le français, tout ça. Ça te prend, c'est ça, une espèce de contrepoids. C'est Bob Gainey est un ancien joueur aussi, ce que Jeff Gorton n'est pas. Donc, tu sais, je pense que en regardant ça d'un point de vue d'équilibre, c'est pas une mauvaise chose. Parce que du reste, non, c'est vrai que Bob Gainey n'a pas été parfait comme DG. Je veux dire, son règne, ça a été des hauts et des bas. Donc, tu sais, c'est pas. Sauf que, tu sais, le Canadien ne l'amène pas comme DG. Là. Le Canadien l'amène comme conseiller.
Dans il est très complémentaire à Gorton. Là. C'est vraiment deux profils
différents. Mais Stéphane, je t'entends maugréer un peu notre spécialiste des réseaux sociaux, Twitter, Facebook, tu penses quoi de ça?
Oh my God. C'est certain qu'il ne sera pas bien accueilli dans les réseaux sociaux. C'est certain à cause de ce qu'il a laissé à Montréal puis la façon que ça a fini à Montréal. Sauf que, comme gars de hockey, il faut être honnête, c'était une très bonne tête de hockey. Il a tout le temps été reconnu comme une très bonne tête de hockey. Comme je disais tantôt, il ne décidera rien, là, Bob Gainey, là. Pour rester calme avec ça, il décide rien, c'est un conseiller. Et puis, il va seulement dire son opinion, puis ils vont faire ce qu'ils veulent avec son opinion. Mais sauf que tu peux pas te passer de ces gars-là. Il fait partie de la tradition, de l'histoire du Canadien de Montréal, une bonne réputation. J'adore ça, cette nomination-là, puis j'adore avoir des anciens autour d'une équipe. C'est la même chose à Chicago, j'adorais voir les anciens autour de l'équipe. Et puis à Montréal, c'est quelque chose qu'on a perdu un petit peu dernièrement, puis que ce sera le fun de retrouver.
D'ailleurs, puis si le Canadien veut vendre cette décision-là à la nouvelle génération de partisans, ils ont juste à dire que Nick Suzuki est un produit très lointain de Bob Gainey, parce que a été acquis contre Max Pacioretty, qui a été acquis dans l'échange de Craig Rivet. Ben alors voilà, il y a
tout
encore...
Est dans tout.
Tout est dans tout. Tout est dans tout. Il y a encore un lien.
OK, hey, messieurs, Guillaume, je continue avec toi. Je te l'ai dit, tu as une journée fort occupée. Tu as amené un texte sur la Presse Plus. Prenons des leçons de 2012, parce que où on est présentement chez le Canadien, on a l'impression on est en train de recruter un directeur général. On a l'impression qu'on est en train de revivre un peu la situation de 2012. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2012, le Canadien est terminé 28e, 15e dans l'Est. Ça dit-tu quelque chose, Stéphane, 2012? C'est dans le coin que tu es arrivé, ça, dans ce
coin-là?
Non,
moi, je suis arrivé en 2013, après la Coupe Stanley en 2013. Donc, j'étais pas... Mais la différence pour moi, 2012 puis 2000 quoi aujourd'hui? Là,
21. Oui.
C'est... C'est en 2012, on avait Marc est arrivé, mais on avait encore le même recruteur en chef à ce temps-là. Fait que là, c'était encore plus gros cette année. Ça, c'est une grosse affaire. Et puis, mais ça reste les mêmes challenges, les mêmes défis. Le défi, c'est de... Puis Marc, quand il est arrivé, je me souviens, parce que j'étais à Chicago, puis je me souviens que lui, ses intentions, c'était de bâtir avec le repêchage, puis le développement. Puis c'était ça qu'il voulait. Puis c'est ce qu'il a fait, mais ça n'a pas réussi. Tu veux dire. Mais les intentions seront les mêmes avec Jeff Gorton.
Ça, c'est sûr. Donc, le Canadien, 2012, termine 28e, 15e dans l'Est. Deux ans plus tard, on se retrouve en finale d'association. Et Guillaume, le texte que tu as amené, c'est « Allons voir en 2012 qu'est-ce qu'on disait à l'époque. » Tu sais, qu'est-ce qu'on disait à l'époque en 2012, avant l'arrivée de Marc Bergevin? Là?
Ben, en fait, au lendemain du congédiement de Pierre Gauthier, il y avait un sondage. Donc là, c'était évidemment, c'était le pouls de la population. Alors, les trois favoris, Patrick Roy, 30, donc pour être le prochain DG du Canadien. Alors, premier rang, Patrick Roy, 38%. Deuxième rang, Vincent Danfousse, 21%. Troisième rang, Julien Brisebois, 8%. Et Marc Bergevin, qui était cinquième, sixième de la égalité avec Claude Loisel, seulement 2% des gens qui le voyaient comme le futur DG. Et dans les premières semaines, justement, du processus de recherche, le Marc Bergevin, à part que d'évoquer son nom de temps en temps dans une longue liste, il était clairement pas dans les favoris. T'sais, au début, c'était vraiment Roy Danfousse. Les discussions tournaient autour de ces deux-là. Danfousse s'est retiré assez rapidement, donc ça a calmé ça. Patrick Roy continuait quand même à générer beaucoup d'attention. Donc, c'est ça qui était quand même intéressant à voir aller. Et ben c'est ça, tandis que Bergevin, lui, menait clairement une candidature assez discrète là, cette année-là. Et c'est vraiment dans la dernière semaine là, que son nom revenait de plus en plus souvent. Donc, tu sais, je trouvais que de faire cet exercice-là, ben c'est ça, c'est quand même intéressant parce que là, depuis le début, les deux noms qu'on a le plus pas mal entendu, là, à part Patrick Roy, bien sûr, mais c'est Daniel Brière et Kent Hughes cette fin de semaine. C'est pas mal deux des noms qui ont beaucoup circulé. Ben, faudra voir dans deux semaines puis dans trois semaines où on va en être. Tu sais, c'est quand même des longs processus. Le comité est en train de se former. Donc, ça veut pas dire que ce qu'on entend maintenant va ressembler à ce qu'on va entendre dans trois, quatre semaines.
C'est drôle. On est en 2012, en 2021, c'est la même affaire. Hein? Encore Patrick Roy, encore Vincent. C'est toujours la même chose. Comment ça se fait qu'on n'est pas capable de sortir de cette poutine-là? On est toujours dans le même processus, c'est la même chose.
Oui, mais essentiellement, il n'y a pas tant de Québécois que ça qui ont eu une chance là, dans les 10 dernières années. Là. Julien Brisebois en a eu toute une chance, mais si on regarde les structures de la Ligue nationale, là, les Québécois qui sont dans des postes de haute direction, les nouveaux... Il y a eu Mathieu Darche dont on parle, il y a eu Martin Madden dont on parle, puis tu sais Daniel Brière est pas trop loin de tout ça dont on parle, tu sais, mais il y en a pas eu tant que ça là, des jeunes qui sont dans la quarantaine aujourd'hui qui vraiment à qui on a donné une chance. Traditionnellement, c'est le Canadien qui donne des chances à des jeunes gestionnaires, puis là je vais inclure les coachs là-dedans. C'est le Canadien là qui a donné une chance à Vigneault, puis qui a donné une chance à Therrien, puis qui a donné une chance à Carbeau,
ben tu sais, Julien,
tu sais. Fait que il y en a peu qui ont eu, donc c'est un petit peu normal qu'on revienne avec les mêmes noms. Mais moi, je pense que cette année, tu sais, c'est sûr, si on fait un sondage, Patrick Roy va être premier, là, j'ai même pas de doute. Mais moi, je pense que la liste, elle est très courte. Ils ont beaucoup insisté depuis deux semaines pour dire que ça prend un profil complémentaire à Jeff Gorton. Jeff Gorton, à la base, c'est un recruteur. Je suis convaincu qu'ils ne prendront pas un deuxième recruteur. T'sais,
donc, ça enlève un peu Martin Madden.
Ben oui, moi, je vois pas. Non, mais sérieusement, tout ce que ça va faire, c'est qu'ils vont second-guesser leurs décisions tout le temps. Tu peux pas faire ça, là. Je veux dire, ça prend un profil qui est complémentaire. Puis là où le Canadien peut gagner, avoir une complémentarité, c'est en embauchant un négociateur. Quelqu'un dont la job dans la vie, c'est de négocier. T'sais. Donc, l'idée d'un agent... T'sais, fait une certaine logique. Il y a vraiment des enjeux de passer d'être agent à directeur général. Ça s'est bien passé pour Lacroix, mais ça s'est pas toujours bien passé dans les autres sports de manière générale. C'est pas quelque chose que les joueurs accueillent avec un grand sourire parce que les agents, ils ont des informations là sur les joueurs privilégiés, puis des joueurs qui peuvent se sentir un petit peu trahis là-dedans. Mais moi, je pense vraiment que Kent Hughes est le candidat du Canadien présentement. Là, si on prend les chances au départ là, de la course, je pense qu'il est le candidat préféré. T'sais, depuis le début aussi, notez les mots employés par les Canadiens, mais quand Jeff Molson, il a pas dit qu'il voulait avoir un francophone, il a dit qu'il voulait avoir une personne bilingue, tu sais. Ouais. Donc, ça plaide en faveur. Ils ont parlé de, oh, on est ouvert à avoir un agent, on est ouvert à avoir quelqu'un qui est complémentaire, on est ouvert à avoir quelqu'un qui a un background différent de Jeff Gorton. T'sais, ils ont même dit, c'est pas obligé d'être un joueur. Donc, pour moi, il y a quand même plusieurs indices qui tendent vers une candidature qui serait à l'extérieur là, de la Ligue nationale.
Stéphane, comment tu vois le profil, toi?
Ben, le profil, c'est certain que c'est drôle, hein? J'aurais vu Marc Bergevin, moi, avec Jeff Gorton. Ça aurait été un duo incroyable. Gorton, qui est un gars de scouting, et puis Marc, qui est très bon au niveau de connaissance dans la Ligue nationale, les joueurs. C'est toutes ces échanges qu'il a faites. Je pense que j'ai pas peur. Je me trompe pas en disant qu'au moins 75% des échanges qu'il a faits, il les a gagnés. Donc là-dessus, il était très bon. Tout ce qui manquait à Marc, c'est le côté où ce qu'on a mal repêché, mal développé. Et puis ça, mais avec Gorton, puis un nouveau dépisteur-chef, ça aurait pu régler le problème. Ça aurait fait tout un duo.
Bon, mais messieurs, moi, mais, je, oui, vas-y, termine, excuse-moi.
Mais pour finir, La seule affaire que je reproche aux Canadiens, moi, dans les dernières années, c'est pas d'avoir développé un assistant GM pour éventuellement prendre la relève. Si le, supposons qu'on aurait eu, on nomme un gars comme Daniel Brière, assistant à Marc Bergevin, ça aurait été un gars qui aurait pu prendre la relève, comme Julien Brisebois a fait à Montréal sous Bob Gainey. Et puis
et comme il a fait à Tampa avec Steve Yzerman.
Exactement. Développer un GM, un gérant général qui aurait pu prendre sa place éventuellement. Son assistant, c'était Scott Mellerby. Puis vu que Scott ne parle pas français, on savait qu'il n'y avait aucune chance. Mais de développer de la relève, ça, c'est important. Le prochain gérant général devrait savoir un bon adjoint québécois. Puis prendre la relève éventuellement.
Mais Stéphane, c'était un peu la faute à Marc Bergevin qui a mis ça dans un cercle extrêmement fermé.
Très fermé, c'est la seule chose.
Vous étiez là-dedans, tu sais, puis je te plombe pas, mais vous étiez tous là-dedans. C'était votre gang, c'était vos pensées, vos affaires, puis c'est nous contre le monde, c'était ça aussi l'histoire.
C'est la faute à Bergevin, mais aussi à ces niveaux-là, je pense que Jeff Molson aussi a sa responsabilité là-dedans de pas dire à un moment donné, tu sais, faudrait peut-être amener quelqu'un d'autre. Le seul peut-être profil justement différent dans cette gang-là, c'était John Sedgwick. Le directeur des affaires légales, spécialiste des questions de plafond salarial, tout ça. Donc, il y a lui qu'on peut dire qui est un peu plus jeune et qui a un profil différent.
Il y a Joël Bouchard qui aurait pu. Ça a mal fini. Ça aurait pu être un successeur potentiel.
Les noms n'ont pas nommé une gang, mais le profil, là, c'est d'amener un adjoint québécois, tu le prépares, peu importe qui, mais c'est ce qui manque puis c'est ce qu'il devrait faire la prochaine fois.
Bon, OK, là, c'est le temps de nommer des noms, puis je vais vous en nommer des noms puis pour coacher les Canadiens. Là, aujourd'hui, c'est la journée du grand ménage dans la Ligue nationale de hockey. Les Flyers de Philadelphie ont congédié Alain Vigneault. C'est un Québécois? Oui, il parle français, oui. Congédié Michel Therrien? Oui, il parle français. Vous les connaissez également. Commençons avec Philadelphie. On va parler de Vancouver après, mais c'est le grand ménage à Philadelphie qui connaît une saison de misère. Réaction là-dessus. Stéphane, je veux t'entendre là-dessus, OK? Parce que j'ai entendu un entretien que tu as eu. Tu as communiqué, tu as parlé avec les gars. Vas-y, on t'écoute.
Ben non, j'ai échangé quelques textes avec Michel tantôt. Et puis... tous des textes ben sommaires. Là. Écoute, on va se parler dans les prochains jours plus en profondeur, mais c'était juste pour dire, je pense à vous autres, puis c'est plate, puis va te reposer, puis tu fais ça. Mais j'ai parlé à Michel plus au début de la saison, et puis qu'est-ce qu'on me disait, qu'est-ce que Michel m'a dit au début de la saison, c'est que il y avait beaucoup d'attentes cette saison au niveau des entraîneurs. Des entraîneurs, parce qu'ils ont fait beaucoup de changements cet été, surtout au niveau de la défensive, et puis que maintenant, là, la pression était plus sur les entraîneurs, et puis qu'ils savaient qu'il y avait des attentes. Donc, pas surprenant que ce qui est arrivé un matin, malheureusement, parce que j'aime pas ça voir des entraîneurs, surtout des entraîneurs que je connais, perdre leurs emplois, puis c'est tout le temps, c'est jamais une belle journée, ça. Mais, il y avait des attentes cette année, puis malheureusement, c'est pas surprenant.
Non, ça s'est pas matérialisé, les Flyers qui ont connu. C'était quoi une séquence, là? C'était 8 défaites, 9 défaites de suite, quelque chose comme ça?
À peu près.
Trop. C'était trop, effectivement. Les gars, votre point de vue là-dessus, ouais. Alexandre?
Évidemment, là, c'est sûr que Dominique Ducharme a commencé à sentir un petit peu de pression. Ces choses vont pas bien présentement. C'était pas particulièrement un vote de confiance. La semaine dernière, de Gorton qui a dit, il va finir l'année, mais écoute, de la manière dont ça va présentement, les blessés reviennent pas et ça va être catastrophique à la fin de l'année. Il est dans une mauvaise position. Bon, si on prend les deux, moi, j'aime beaucoup Alain Vigneault. Quand j'ai commencé à couvrir le Canadien, c'était lui qui était l'entraîneur. Toujours une bonne relation avec lui. Je le trouve brillant. Ceci dit, Jeff Gorton a travaillé avec Alain Vigneault. je pense pas qu'il rejoue dans ce film-là. C'est lui qui l'a congédié à la fin.
Lorsqu'il était directeur général des Rangers de New York, exactement. C'est lui qui a congédié Alain Vigneault.
C'est ça. Donc, je pense pas qu'ils vont retravailler ensemble. Bon, Michel Therrien, c'est une candidature intrigante et intéressante parce que Michel Therrien, c'est quand même un gars qui a eu beaucoup de succès, surtout sur le court terme. C'est quelqu'un qui est capable de créer une étincelle là, dans une organisation. Puis, d'habitude, les deux premières années vont bien. C'est après que ça se garde. Mais c'est un entraîneur qui a eu des succès. succès. Puis est-ce qu'il peut devenir un peu, tu sais, comme Billy Martin au baseball là, avec les Yankees, qui est revenu 7 fois?
Non, mais on est-tu en 2012? On est en 2021? Non, pour, c'est la même affaire!
Ceci dit, il n'y a pas le pire des profils. Là. Je veux dire, Michel Therrien, c'est quand même un bon coach de hockey. Est-ce qu'il est de la nouvelle garde? Est-ce que, par exemple, son utilisation des statistiques avancées versus celle que veut en faire Jeff Gorton, est-ce que ça serait compatible? Tu sais, Stéphane, tu as travaillé avec. Je ne sais pas à quel point Michel est plutôt à l'aise avec ça. Est-ce qu'il même il consulte les statistiques avancées? Ou...
Moi, quand j'ai travaillé avec Michel, j'ai été surpris par son ouverture sur tout ce qui est nouveau. Au niveau de, que ce soit un psychologue, il avait amené un psychologue avec
Sylvain Guimond.
Sylvain, exactement. Il était au niveau des stats, au niveau des vidéos, au niveau de tout ça, il était très, très, très ouvert là-dessus. Puis même des stats, à un moment donné, il y avait beaucoup d'affichés un peu partout, toutes sortes de stats qui nous faisaient sortir, surtout par les gars de vidéo. Et puis, non, Michel, là, premièrement, là, zéro problème à le revoir revenir avec Montréal. Le monde m'a dit, ben non, trois fois, il faut tourner la page. Mais c'est parce que c'est pas la même équipe. Si ce serait les mêmes joueurs, je te dirais, ben non, ça prend d'autres choses. Mais c'est plus la même équipe. Il reste quoi? Il reste Gallagher puis Carey. C'est tout ce qui reste de Michel.
Petrie,
oui. Ouais,
puis Byron, ah, qu'on oublie Byron, parce qu'il est blessé. Ouais.
Byron, t'es encore là.
Mais oui, t'es encore là.
C'est
mais comme Michel a eu de la difficulté, c'est les clients difficiles. Tu sais, Galchenyuk, Pacioretty, là, c'est un petit peu ce qui a marqué la fin de son règne.
Oui, c'est exact.
Attendez, les gars, là, je vous écoute. Là, attendez une minute. Là, je comprends que la candidature est intéressante, là, mais on l'a amené en 2012 exactement pour les mêmes raisons qu'on est présentement, c'est-à-dire
ça a bien été.
Je suis d'accord.
Puis il a fait de la job.
Je suis team Jérémy là-dedans.
Hey,
je fais pas partie de ceux moi, qui croient.
Non, mais on va être rendu à No Excuses 2.0. Je veux dire,
Mais il a beaucoup changé entre son premier et son deuxième passage. Moi, ça m'avait marqué. Oui. Ce qu'il m'a dit, c'est il a quand même dit, j'ai appris une chose. Avant, je parlais à tous les gars de la même façon dans un vestiaire. Puis quand je suis revenu à la deuxième fois, j'avais compris que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut vraiment avoir des communications individuelles avec les joueurs. Moi, je trouve qu'il a beaucoup progressé entre son premier et son deuxième mandat chez le Canadien. Maintenant, est-ce que ça fait assez de temps qu'il a quitté le Canadien pour s'être renouvelé de nouveau? J'en suis pas certain. Je pense pas qu'il devienne le prochain coach du Canadien, mais est-ce qu'il va se replacer quelque part dans la Ligue nationale? Moi, je pense que oui.
Mais si tu as besoin de quelqu'un qui sort le fouet un petit peu, parce que honnêtement, quand Michel Therrien arrive, là, on dit ça, c'est une expression, il va sortir le fouet, va demander à tout le monde d'être dévoué totalement à l'équipe, de faire les choses. Tu sais, il y a d'autres gars qui sont capables de faire ça. Moi, je regarde, il y a Guy Boucher qui est là, qui parle à chaque jour dans la télévision. C'est un gars qui est renommé pour ça, puis lui non plus, ça dure pas longtemps. Ça marche, puis à un moment donné, ça s'efface progressivement. Ouais. Michel Therrien, je sais pas, là.
Oui, non, exact. Non, mais c'est surtout aussi le fait que quand le poste va s'ouvrir, tu vas avoir encore une occasion de donner une chance à quelqu'un, à quelqu'un de nouveau qui a pas eu cette chance-là dans la Ligue nationale. Puis vite comme ça, là, t'as Benoît Gros dans la Ligue américaine, t'as Yann Laperrière qui commence là, comme entraîneur-chef. Pascal Vincent, qui est rendu adjoint, lui, maintenant, à Columbus. Alain Nasreddine, qui est
Je t'arrête, Guillaume. C'est peut-être ça le problème aussi, c'est que si on donne ces chances-là à des nouveaux, peut-être qu'on peut les amener comme adjoints, comme on a fait avec Dominique Ducharme. Mais aujourd'hui, si tu as un coach d'expérience derrière le banc, est-ce que le rendement de l'équipe est le même? Moi, je pense que non. Je pense qu'il y a des gars qui se donneraient un peu plus. Là, Dom Ducharme n'a peut-être pas la notoriété avec les vétérans pour être capable d'aller chercher le maximum présentement dans une cause perdante. Stéphane, je veux t'entendre. Ce que je dis, est-ce que je suis dans le champ gauche?
Non. Sauf que Dominique a quand même fait 2 ans comme adjoint. Puis je pense que c'était pas un problème de le nommer coach parce qu'il a fait ses classes comme adjoint. Si on a ramené Dominique direct du junior, ça aurait été plus difficile. Fait que c'est un peu que tu dis de préparer quelqu'un comme adjoint. Et puis c'est un peu ce qu'on fait avec Dominique. C'est exactement le même processus. Donc je pense pas que Dominique soit été amené dans la cage où ils ont trop rapidement. Il a eu une belle carrière junior au niveau international et puis 2 ans comme adjoint où il a vu comment que ça se passait à l'intérieur avec un coach d'expérience comme Claude Julien. Donc, je pense qu'il était amené d'une bonne façon. Là, si ça marche, si ça va bien ou ça marche pas, ça c'est une autre histoire en ce moment, mais je veux dire, la façon qui est amenée là, j'ai pas de trouble avec ça.
Est-ce qu'un coach d'expérience, Alexandre, fait en sorte que le club réagit mieux présentement dans l'adversité?
Je pense pas, non. Tu sais, je pense qu'un des problèmes du Canadien présentement, c'est qu'il y a vraiment deux groupes de joueurs, les vétérans et les très jeunes. Tu sais, il y a quand même, ils ont eu 11 joueurs en bas de 25 ans depuis le début de l'année. Là. C'est même pas la même génération. Là. On parle ici des Z, puis des millénaires, les millénaristes, en tout cas les
si
milléniaux.
Tu veux, on te laisse aller là-dessus. Bravo, en tout cas, c'est un bel exercice de diction.
La gang de Guillaume, là. T'sais. Non, mais c'est deux générations différentes avec deux besoins différents. Il y en a qui sont en développement, il y en a qui sont au sommet de leur carrière. La vraie question, c'est le prochain coach. Moi, je pense pas qu'il va gérer tant de vétérans que ça. Là. Le Canadien va se mettre. Est-ce que ça va être une reconstruction totale? Je pense pas, mais il va avoir un certain ménage fait dans les vétérans. Il va avoir plus de jeunes joueurs. Ça va prendre un coach avec un profil un petit peu différent de ce qu'on peut peut-être s'imaginer. T'sais, ça fonctionne pas toujours très bien, un coach avec beaucoup de millage, avec des très, très jeunes joueurs. Là. C'est pas toujours la meilleure des solutions. Il peut avoir un clash générationnel, un clash de culture aussi. J'ai plus l'impression qu'on va aller vers un coach éventuellement plus jeune.
Les Flames de Calgary font pas les séries. Okay? Ouais. L'an passé, ils ne font pas les séries. On amène Sutter.
Ouais.
Milan Lucic, en point de presse, dit « J'espère que vous êtes prêts, attachez votre sucre. » Parce que lui, il sait ce qui s'en vient. Là. Mm-hmm. Aujourd'hui, ouais. Les Flames de Calgary, c'est un des meilleurs clubs dans la Ligue nationale
de hockey.
C'est
un club de vétérans aussi. Que,
oui, je suis d'accord avec toi, mais c'est un gars qui demande beaucoup. Fait que donc, quand tu as un coach qui demande beaucoup, puis tu sais que c'est ça qu'il va te demander, en quelque part, ça, tout le monde sait où ce qui s'en va. Là.
Ça fait combien de fois que la direction du Canadien dit depuis un an que chez les jeunes, il y a un certain manque d'engagement? Là. Puis on l'a vu, je veux dire, t'sais, avec Kotkaniemi, avec Mété, là, ça a été montré, démontré qu'on trouve que les jeunes... T'sais, Pilling a très mal pris son renvoi, Coffey l'a mal pris son renvoi. Il y a une accumulation de joueurs de cette génération-là qui ont eu des problèmes, on va dire, de communication.
Ça s'est accroché.
Oui, ça a accroché avec la direction. Là, t'sais.
Okay. Bon, messieurs, oui, vas-y Stéphane.
Il y en a fait qui est sûr, c'est que ça dépend quelle sorte d'équipe que tu as. Si tu as une équipe de jeunes, tu veux reconstruire, mais tu y vas avec un coach qui plus les nouvelles générations. Mais c'est un club qui est proche de gagner. Là, tu vas y aller avec un coach à court terme, un coach qui va, comme Sutter. Sutter, il n'est pas là pour 10 ans, là, lui. Là. Et puis, il est là, lui, pour les faire gagner tout de suite. Pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, c'est tout de suite. Ça dépend si vous t'es rendu dans ton cheminement, dans ta hiérarchie, dans ton équipe.
Okay.
Ça, c'est important. Si le Canadien dit, bon, mais OK, nous autres, on oublie ça, les playoffs, les 2-3 prochaines années, on reconstruit, il va peut-être avec un coach plus de nouvelle génération. Je vois un gars comme, ils avaient nommé des très bons noms tantôt, je vois un gars comme Guy Boucher, je vois un gars comme Pascal Vincent, qui a une très bonne réputation. Mais si tu veux gagner dans 2 ans, mais là, t'amènes, je sais pas moi, un Alain Vigneault, un Patrick Roy, un Michel Therrien. Ça dépend vraiment c'est où ce que tu t'en vas comme équipe.
Okay. Entendons-nous qu'ils sont pas à 2 ans de gagner la coupe.
Non mais je ne sais pas, exact. Stéphane, t'es voix où, toi? Ils sont pas à 2 ans. En 2012, excusez-moi, là, ça a fini 28, 15e dans l'Est. Ouais. 2 ans plus tard, t'es en finale d'association.
Oui, ouais, je pense que les prospects étaient pas mal meilleurs en 2012.
Ouais, c'est ça, parce qu'à ce moment-là, t'avais quand même Price, Pacioretty, Subban qui étaient dans la force de l'âge.
Un gardien de but qui est devenu une couple d'années après... Après 2012, une couple d'années plus tard, qui était devenu le meilleur gardien du monde.
Donc, la situation est différente.
Ouais, tu partais avec un noyau intéressant de gars qui étaient près de leur maturité. En ce moment, ce que tu as pour l'avenir, c'est des gars, par contre, qui sont encore, justement, loin de leur maturité.
Essaye de prédire la défense puis le gardien du Canadien dans 2 ans, présentement.
Exact, c'est ça. C'est pas facile.
Hey, messieurs, on doit absolument s'arrêter. On va faire une courte pause. Puis au retour, on continue notre voyage à travers la Ligue nationale de hockey parce qu'il y a eu du ménage également du côté de Vancouver. Et savez-vous quoi? Le nom de Marc Bergevin refait surface, mais du côté de Vancouver, on en parle au retour. Restez là.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866 appel. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour au balado Sortie de zone en collaboration avec les gars de la presse qui sont avec nous. Épisode 18, messieurs, avant d'aller à la pause, je vous disais, nous sommes un grand voyage à travers le Canada de la Ligue nationale de hockey. Et là, on va faire un tour à Vancouver. En fin de semaine, on criait dans les estrades « Fire Bennings! »
Pas juste à Vancouver, à Montréal aussi, il y avait la pancarte.
Oui, en effet!
Et même à Montréal, il y avait une pancarte.
Ça
suivait jusqu'ici.
En effet. Donc, Travis Green, le coach, a été congédié. Jim Bennings, le directeur général, a été congédié. On a embauché Bruce Boudreau comme entraîneur. Lui qui est comme un chat, a 128 vies et trouve le moyen toujours de revenir.
Il y avait quelqu'un sur Twitter qui disait, on n'arrête pas de dire que le Canadien se limite dans son nombre de candidats parce qu'il faut qu'il parle français, mais ailleurs dans la Ligue nationale, c'est une autre forme de limite en recyclant justement des Bruce Boudreau, des Randy Carlyle, des coachs comme ça qui reviennent, on dirait.
Mais là, je me rends compte que si tu veux avoir un job dans la Ligue nationale, quand tu te fais congédier, va travailler à NHL Network et après, tu as des chances de revenir et d'avoir un club. Là,
c'est un petit club. Hein,
NHL Network, c'est plus l'endroit où tu dis clairement je suis disponible pour pour travailler.
C'est là que tu mets ton CV.
Exact. Et là, les gens te voient à la télé, faut dire OK, je pense qu'on va aller le chercher.
Fait que là, mesdames, messieurs, faites attention. Si on voit Stéphane White à NHL Network, on va le savoir!
Est-ce que Stéphane s'est peinturé dans un coin en disant ça?
Marc Bergevin, son nom est ressorti à travers les réseaux sociaux pour dire oups, c'est peut-être un candidat pour être directeur général des Canucks de Vancouver. Avant d'avoir votre point de vue, je vais aller à Stéphane. Stéphane, on a parlé souvent ensemble dans le balado Sortie de zone. Tu parlais comment Marc, les dernières semaines, les derniers mois, peut-être les dernières années, ont été difficiles. Quand moi, j'ai entendu le nom de Marc Bergevin comme candidat potentiel à Vancouver, je me suis dit, il me semble que ça recommence vite. Il me semble qu'il prend pas le temps de relaxer. Je me trompe-tu?
Non. Puis j'y souhaite. Je sais qu'il va se trouver un job quand il va vouloir. Mais je souhaite personnellement, je serais lui. Je dirais, prends ton temps, puis repose-toi, parce que exactement, là, ça fait deux semaines, même pas, là. Ça fait une semaine dimanche. Donc, non, il y a besoin de repos, il y a besoin de prendre du recul, et puis ça serait trop vite pour moi, c'est certain, mais il reste que si, avec du recul, ça serait tout un très bon candidat à Vancouver. Je sais qu'il adore cette ville-là, en passant. Il adore Vancouver. Donc, je le verrai là, mais j'y souhaite quand même de prendre du recul puis de se reposer.
Alexandre, t'en penses quoi?
Ben, tu sais, c'est très tôt après.
Mais Claude Julien a fait ça. Je pense qu'il n'a pas eu le temps de défaire de sa valise de Boston. Il était rendu coach canadien.
Une semaine. Mais ça, c'est dit. Tu sais, les Canucks, c'est une drôle d'équipe. C'est le contraire du Canadien. Donc, c'est une équipe qui a très bien repêché quand même dans les dernières années. Ils ont quand même, sont allés chercher Hughes, sont allés chercher Peterson. Ils ont eu des choix lointains comme Adam Gauthier, qui sont des bons joueurs de hockey. T'sais. Et eux, ce qu'ils ont raté, c'est tout le reste. C'est toutes les acquisitions. Tu sais, clairement, il y a. Le Canadien a été très bon pour le recrutement professionnel, moins bon pour le recrutement amateur. C'est le contraire chez les Canucks. Et
mais
Marc
ils ont
Bergevin,
perdu leur recruteur, par exemple. Joe Brackett, ils l'ont perdu.
Ouais. Mais tu sais, présentement, Marc Bergevin, pour moi, sa grande qualité dans le milieu du hockey, c'est l'évaluation du talent professionnel. Fait que clairement, il y a quelque chose qui est intéressant là. Maintenant, tu sais, je le vois plus peut-être avec les Ducks d'Anaheim éventuellement, qui ont aussi une jeune équipe, tu sais, qui monte, qui ont beaucoup de jeunes espoirs. Donc, la base, elle est là. Puis là, c'est de construire autour de la base puis de faire le tour de la Ligue nationale pour compléter la base d'espoir qui est déjà solide. Fait que c'est deux destinations qui sont quand même possibles pour moi, pour Marc Bergevin. Tu sais, c'est pas des équipes qui s'en vont là. OK, faut scraper à zéro, on part une reconstruction. Puis là, il faut vraiment y aller avec le repêchage amateur. Ça, je pense que c'est peut-être pas le profil qui sied le mieux présentement à Bergevin, mais les deux profils qui sont là, oui.
Guillaume?
Ben, moi, j'ajouterais à ça dans la liste de possibilités aussi, si Marc Bergevin souhaite une petite pause de pression. Oublions pas que son bon ami Pat Brisson chez CAA, qui a une équipe tellement grande, donc tu sais, je veux dire, c'est pas nécessairement dit que Bergevin Bergevin va devenir agent, mais je sais, même des gens attitrés au développement, des choses comme ça, donc tu sais, je pense que même là il y aurait des possibilités pour Bergevin. J'en sais, il y a des contacts partout dans la Ligue nationale, tout ça, donc s'il y a besoin d'une petite pause, puis j'avoue que je suis un peu d'accord, Stéphane le sait mieux que nous parce qu'il côtoyait de près, mais nous de l'extérieur, il avait clairement l'air d'un gars qui était un peu vidé là par moment, puis que ça je pense que c'est un travail qui lui rentrait dedans. Il y a des mandats comme ça qui sont possibles pour lui, le temps de se donner un an ou deux, peu importe, là, pour recharger des batteries, parce que tu sais, on le traite on l'a beaucoup critiqué à Montréal, là, Marc Bergevin, puis effectivement, il n'a pas été parfait, mais tu sais, j'ai l'impression qu'il a quand même gardé un certain niveau de respect dans la Ligue nationale qui fait en sorte qu'il va être capable de se trouver quelque chose.
Parce que Vancouver, c'est pas une place où tu vas te cacher, là. Je veux dire, c'est facile. On n'est pas content là-bas, puis on veut gagner. Fait que
non,
si tu as trouvé ça difficile à Montréal, ça sera pas. Oui, j'avoue que le décor est fort intéressant à Vancouver.
Ben, il y a moins de médias quand même.
Il y en a moins, je suis d'accord. Il y en a moins, mais on veut gagner à Vancouver. Ouais. Stéphane, t'en penses quoi, toi?
Bon, on veut gagner partout. Hein. Partout,
En Arizona?
Oui, mais ils veulent gagner éventuellement.
Ils veulent gagner, ils sont juste moins à vouloir gagner.
<C'est ça.
rire> ils veulent longtemps gagner.
Puis Ottawa, ça paraît pas tout le temps non plus.
Oui, mais tout le monde veut gagner, ça c'est clair et net. Et puis Marc, écoute, il va se trouver un job, c'est certain. Il a une très bonne réputation dans la Ligue. Et puis, c'est sûr que ça serait un bon fit pour lui à Vancouver au niveau, là, je suis d'accord. Je suis d'accord avec ce qu'on vient de dire, là, qu'ils ont très bien repêché. Marc pourrait boucher des trous avec une coupe d'échange et ça, t'es là, et puis faire un très bel job. Donc, ça va être dans ses mains, mais c'est un petit peu vite pour moi. Qui se repose un peu? Là.
Hey, messieurs, avec tout ça, savez-vous quoi? On n'a même pas parlé de la défaite du Canadien en fin de semaine, 4-3 en prolongation. Hey, tu parles-tu du monde qui ne sont pas professionnels?
De moins en moins, on va parler des games. Hein?
Je pense que oui. Hein? c'est pas dans la priorité numéro un. Maintenant, attendez, chose importante par contre. On apprend aujourd'hui, Tyler Toffoli, blessé plusieurs semaines. Joel Edmondson, blessé, doit... c'est quoi, opération potentielle pour lui?
Non, c'est ça, justement. Duchamp m'a dit qu'il pense pas qu'il y aura une opération, okay. Mais il a parlé quand même une semaine.
Okay. Armia, blessé aussi, n'était pas d'entraînement aujourd'hui.
Présence douteuse demain.
Présence douteuse pour le match face au Lightning.
Et même chose pour Petrie.
Petrie également. Fait que là, le Canadien perd des matchs, le Canadien perd des joueurs. Où c'est que ça s'en va, cette histoire-là, messieurs? Stéphane, ça s'en va où?
C'est pas grave, ça. C'est pas grave. Qu'ils soient tous blessés. Ça, là, la saison est finie. Là, c'est même plus une question. Il faut gagner la prochaine game, la prochaine partie. C'est plus ça la question. La question, c'est de l'évaluation. Puis ça va permettre à Dominique Ducharme, puis au nouveau, à la nouvelle direction, d'évaluer des joueurs. Là, c'est le temps d'appeler à peu près tout ce qui joue à Laval, puis des essayer. Et puis, OK, lui, on veut voir sur 2-3 games, qu'est-ce qu'il est capable de faire. OK, après ça, on le renvoie à Laval, on monte un autre. Et puis, c'est l'occasion parfaite pour ça. Donc, ça, tous ces mots juste de blessures-là, ça fait suite à la saison trop, mais beaucoup trop courte qu'ils ont eu là, la saison morte. Ces gars-là sont venus au camp d'entraînement. La moitié était avec des blessures. Qui n'ont pas eu le temps de guérir, ils n'ont pas eu le temps d'avoir le repos qui est recommandé après une saison. Ces gars-là ont recommencé à s'entraîner trop rapidement, trop vite. Et puis, ça n'a jamais fini, puis ça va être de même toute la saison.
Hey, lundi 6 décembre, la saison est finie.
Oui, alors, c'est incroyable.
Est-ce qu'ils vont donner... Va-t-il avoir des billets moins chers parce que c'est rabais transition?
Non, mais c'est une bonne question. Parce que la semaine dernière, le Canadien a fait beaucoup de publicité autour du Vendredi fou. C'est pas dans les habitudes du Canadien de solder ses billets à ce point-là.
Fait des promotions pour ceux qui sont au cégep, pour les collégiens,
absolument,
des rabais pour
moi je suis convaincu qu'ils vont avoir des rabais d'ici la fin de l'année.
Oui, c'est ça.
Non, mais à un moment donné, ils vont vouloir remplir le Centre Bell. Je veux dire, les matchs compteront plus. À un moment donné, il y a des fans là, qui vont essayer de liquider leurs billets. Ça va arriver, là, c'est certain.
Oui, puis ça te prend des gens aussi. Tu sais, au-delà des billets de vendus, ça te prend des gens physiquement dans le Centre Bell aussi. Là. Je veux dire, les concessions, continuent à faire de l'argent.
Oui, absolument, le stationnement. Ben oui. Oui, non, ça va arriver, je suis convaincu. Là,
ben oui.
Mais okay. Bon, cette semaine, Tampa Bay, c'est sublime. Tampa Bay jouait hier, c'est ça, jouait hier contre Philadelphie.
Contre Philadelphie, exactement. C'est eux qui ont donné le dernier coup
de grâce.
Tu parles de Tampa Bay, là, en passant, je regardais les trios à l'entraînement ce matin, là, sur les 12 attaquants, puis, tu sais, si Armia est bel et bien absent demain, là, sur les 12 attaquants, il y en a juste 4 qui ont joué en finale contre Tampa Bay. Ça fait 5 mois de ça?
Quand même. Oh, hein?
Il y a 41 millions de dollars présentement qui ne jouent pas chez le Canadien.
Ouais. C'est Suzuki, Lekkonen, Evans, Caulfield.
Et là, j'ai bien vu Lekkonen était sur le premier trio. Hein?
Après ça, de chiffrer ces trios-là...
Définitivement. C'est pas évident. C'est pas évident comme situation. OK. Hey, Tampa Bay, Chicago cette semaine. OK. Tampa Bay, Chicago. Mardi, Tampa Bay. Jeudi, Chicago. Le Canadien récolte aucun point sur 4. 2 points sur 4, 4 points sur 4. Alexandre?
Zéro. Je veux dire, il y a un désengagement. Moi, je constate en tout cas un désengagement des jeunes dans l'équipe. T'as un gars, Jake Allen joue super bien ces temps-ci, là. Mais pour le reste, il y a vraiment des joueurs au neutre, mais totalement dans ce club-là. Puis il y a trop de blessés. Là, on a vraiment un club de la Ligue américaine devant nous. Il y a 8, 9, 10 joueurs là, qui ont joué dans la Ligue américaine cette année qui sont dans l'alignement. La défense, sérieusement, on demande à quelqu'un de Toronto de nommer les défenseurs du Canadien, puis il va rire en voyant la liste comme nous, on rit quand on regarde celle des Coyotes de l'Arizona. Là, c'est la tristesse, en fait, des équipes qui s'engage dans ce processus-là d'évaluation, c'est qu'il y a des joueurs qui jouent juste pour pas se blesser d'ici la fin de l'année, qui vont jouer hyper conservateurs. À l'inverse, tu sais, je vois par exemple Chariot qui joue 30 minutes présentement par match. Ça, pour moi, ça envoie le message que c'est un joueur qui est en vitrine présentement et il doit le savoir. Et qui risque.
Non, mais t'en
as
besoin, Chariot ne veut pas, là. C'est cool qu'ils soient en vitrine, là. Mais, ben, tu sais, avant de penser de l'envoyer ailleurs.
Mais
là,
penses-tu vraiment que Chariot va re-signer avec une équipe qui va peut-être amorcer une reconstruction? Eh ben, moi, je pense pas, là.
Comme tu dis, peut-être, ouais.
Fait que, tu sais, il y a une opportunité, là, pour le Canadien. C'est pas pour rien, là. Je veux dire, qu'il joue 31, 32 minutes. C'est pas un gars qui devrait jouer plus que 23 en temps normal, là. Tu sais, dans une équipe bien
faite. Ouais,
mais
je sais pas, par contre, si c'est un cas de vitrine, ça, parce que, comme tu le dis, c'est un gars qui devrait jouer 23 en temps normal. Si tu veux vraiment bien le mettre en valeur, parce qu'il faut que tu le vendes comme un gars de 23 minutes. Faut pas que tu risques justement de le surexposer, tout ça. Même s'il réagit bien, là, moi, je trouve que, tu sais, il est vraiment pas le pire défenseur. Mais ça reste que c'est ça. Je sais pas en termes de vitrine. L'autre chose, c'est que, tu sais, avec le vécu qu'il y a dans la Ligue aussi, je pense aussi que
t'as besoin de son expérience, en quelque part.
Oui. Non, mais je pense que dans la Ligue nationale, les autres équipes le connaissent. Donc, tu sais, je sais pas s'ils ont besoin tant que ça de le voir jouer plus de minutes. Je pense que ces minutes, c'est surtout le fait qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de défenseurs dans
groupe, d'effectifs.
Qui ont exactement, ouais, qui ont pas leur place, il y a une couple de défenseurs avec des profils plus offensifs, donc ça fait bien des gars qui peuvent pas jouer en désavantage numérique. Donc Sherrod joue tout le temps à peu près les 1 minute et demie, 1 minute 45 des 2 minutes de désavantage.
Guillaume, 0 points sur 4, 2 points sur 4.
Moi, je vais y aller avec 2 pour le facteur Marc-André Fleury avec Chicago qui
fait toujours une petite boulette contre le Canadien.
Des fois ça vient hanter à Montréal, donc je vais
long de la clôture.
Ben exactement. Ça serait plate de répondre 0 sur 4. On va y aller 2 sur 4. Okay.
Quand même, mi-positif.
Ben oui, mais en même temps, on l'a vu, là, je disais, samedi, ça a été. Samedi, le Canadien a quand même joué un bon match. L'avantage numérique a fonctionné. À force égale, c'est plus 17, difficile. Mais
2 les lancers en faveur de Nashville en 3e.
Exact. Non, ça a fini par rattraper. Mais non, mais je disais, pour ce qu'il y avait comme effectif, le Canadien, moi, je trouve que c'est une équipe qui s'est quand même bien battue, bien débrouillée. Et c'est ça, l'avantage numérique sans Jeff Petrie.
Je rappelle que Toffoli, c'est le meilleur marqueur dans les 10 derniers matchs et là, il s'en va.
Ouais, hein.
Quand même. Hein?
C'est sûr.
Stéphane, aucun point sur 4, 2 points sur 4, 4 sur 4?
Moi, j'en ai 1 sur 4. Ils vont perdre en supplémentaire contre Chicago, puis ça va faire la 500e victoire de Marc-André Fleury dans la Ligue.
Oh!
Marc-André va sortir de la patinoire avec un standing ovation pour sa 500e victoire.
Oh.
Donc, ça va être très intéressant. Ça, c'est s'il perd demain contre les Rangers à Chicago. Donc, non, je donne un point sur 4. C'est sûr que ça va être très difficile demain contre la Lightning. Mais contre Chicago, leurs chances sont bonnes. Et puis, mais ce serait un beau scénario de voir Marc-André avoir sa 500e victoire à Montréal. Ça serait bien le fun. Pour ce qui est, on parlait de Chariot.
Ouais. Écoute,
c'est lui qui a la plus grosse valeur pour moi en ce moment, pour le Canadien. Là, donc... Premièrement, ils n'ont pas à l'exposer, à le mettre dans une vitrine parce que, comme que vous disiez, écoute, la Ligue la connaît très, très, très bien. Il y a une très bonne saison. C'est certain que ce gars-là, il va signer l'année prochaine en quelque part pour beaucoup plus qu'il fait, pour beaucoup plus que 3,5 millions. Et puis, le problème, c'est que il va être payé trop cher éventuellement l'année prochaine. Il va être payé trop cher. C'est le plus gros problème. Mais faut que tu l'échanges. Faut que tu ailles chercher. Comme j'ai dit tout le temps, si tu as eu un premier choix pour Savard l'année passée, Columbus a eu un premier choix pour David Savard avec pour Tampa Bay. Tu peux avoir un premier choix pour Chariot, certain.
OK, c'est donc prépare le repêchage. Okay.
Ouais, ouais. C'est drôle, ben, ça me rappelle un petit peu, Sherrod est un joueur plus important que lui, là, mais ça me rappelle la fin de Dale Weiss avec le Canadien. Tu sais, c'était sa dernière année de contrat était une année très difficile pour le Canadien. C'était clair que c'était un gars qui avait une certaine valeur, mais c'était aussi clair que son prochain contrat allait être un mauvais contrat pour l'équipe qu'il allait lui donner. Et c'est les Flyers qui sont tombés dans le piège. C'est pas catastrophique, mais quand même. Là, 9,4 pour 4 ans, 2,3 millions. Puis on le sait, ce contrat-là, il l'a fini ici à Montréal à la fin. Parce que Bergevin devait se débarrasser du contrat de Schlemko.
Stéphane, je veux revenir sur quelque chose que tu as dit, parce que ici, Alexandre parlait de être dans une vitrine. Tu sais, il est exposé pour être échangé, puis tu vas être dans la vitrine. Pas vrai, là. Ça existe-tu, ça? Est-ce que ça arrive qu'on dit on va mettre des joueurs dans des situations où on veut le montrer pour l'échanger? Est-ce que ça existe dans la Ligue nationale de hockey?
C'est une bonne question. Dans mes 18 années dans la Ligue nationale, je me souviens pas d'une année où on a dit OK, lui, on va le faire jouer pour le montrer. Je pense que tu n'as plus besoin à ce temps de faire ça parce que avec toutes les technologies, les vidéos, les stats avancées, t'as pas besoin de ça se fait de. Moi, honnêtement, j'ai pas vu ça souvent dire ah, on va le faire jouer pour le montrer. Non. Pas vraiment.
OK, parfait. Bon, mais écoute, on vient de briser un mythe. On pète la ballonne officiellement.
Probablement, dans le temps, ça se faisait. Dans le temps, qu'il n'y avait pas toutes les vidéos, puis toutes les stats, puis tout. Tu sais, il fallait tu voyais les dépisteurs, puis les gérants en général se déplacer de ville en ville pour aller voir tel joueur, puis. Mais à cette heure, t'as plus besoin de faire ça.
OK, à cette heure, ça peut se faire par vidéo. OK, messieurs, on va s'arrêter quelques instants pour retour. Question du public. Les auditeurs sont intéressés à notre balado. On a des questions pour vous, les professionnels. Restez là.
Ne manquez pas le balado Relève-toi, présenté par le Regroupement des centres de prévention du suicide du Québec.
Dans l'épisode de cette semaine, Patrick Marsolais reçoit l'ex-patineuse de vitesse et médaillée olympique, Marianne Saint-Gelais.
Mes médailles, je me disais, ils m'apportent absolument rien. J'ai pas plus de vie, j'ai pas plus d'amoureux, j'ai pas plus de famille, j'ai pas plus de scolarité, j'ai absolument rien.
Comment ça va? Nous sommes toujours là, 24/7, partout au Québec. Appelle-nous. Au 1-866 appel. Ensemble, tissons l'espoir.
On est de retour à ce balado sortie de zone, épisode 18 en compagnie d'Alexandre Pratt, Guillaume Lefrançois et Stéphane White. Messieurs, question du public. À tour de rôle, rapidement, je veux votre point de vue là-dessus. C'est Jacob Lapointe qui nous demande, est-ce que le Canadien doit instaurer un système de nombre de matchs minimum dans la Ligue américaine avant de monter les joueurs dans le grand club, dans la Ligue nationale? Il fait référence, entre autres, ce que les Red Wings de Détroit ont fait. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez, ça, Guillaume?
Ben, moi, oui, je serais favorable à ça. Je me rappelle plus si c'est Joël Bouchard ou Dominique Ducharme qui disait, jamais un joueur qui est resté trop longtemps dans la Ligue américaine. T'es pas obligé de le faire passer 2-3 ans là, non plus, mais tu sais, je regarde les Ducks d'Anaheim, eux, c'est en général, là, c'est rare que les gars graduent à la Ligue nationale avant d'avoir joué une cinquantaine dans la Ligue américaine. Une cinquantaine, c'est une demi-saison, saison complète, là, plus ou moins. Je pense que c'est pas trop comme minimum.
OK, Alexandre?
Oui, je suis en faveur parce que ça baisse les attentes un petit peu des joueurs après. T'sais, après ça, ils sont pas déçus. Je prends l'exemple de Ryan Poehling. T'sais, tu commences, tu joues une game, tu es retourné dans la Ligue Nord, puis là, tu es vraiment comme t'sais, abattu par cette décision-là. Fait, il y a du bon à ça. Maintenant, il y a des exceptions à tout aussi. T'sais, un joueur américain versus un joueur canadien, si tu sors de l'université américaine, tu as 23 ans.
Puis qu'il faut que tu négocies pour l'amener.
Ouais, exactement. T'sais, là, il y a peut-être des différences. T'sais, à 23 ans, il y a plein de gars qui sont déjà dans la Ligue nationale. Des Canadiens qui se fait 4 ans qui jouent dans la Ligue américaine. Donc, il y a peut-être des exceptions pour les joueurs américains, là, tous les joueurs européens qui arrivent aussi un petit peu plus vieux. Mm-hmm. Mais c'est souhaitable. La réponse, c'est oui.
OK, Stéphane, ton point de vue?
Oui, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Guillaume et Alex. C'est d'être patient avec ces jeunes-là. C'est important. Oui, il y a des exceptions. Tu peux pas dire, bon, mais c'est tout le monde va jouer tant de games dans les américaines. Je pense pas que tu peux aller aussi strict que ça. Mais à moins d'un gars qui est très mature, ou qui est plus âgé, qui vient de l'Europe ou de l'université. Et puis, si t'es jeune, prends ton temps. Il n'y a rien de mal à jouer dans la Ligue américaine, surtout des gardiens de but. Non, j'aime ça.
On fait référence souvent aux Red Wings de Détroit. D'ailleurs, Jacob Lapointe faisait cette référence. Mais tu sais, les Red Wings, là, ils ont eu un gros club pendant longtemps. Oui. Fait que c'est plus facile de laisser tes joueurs dans la Ligue américaine.
Puis deux, là, présentement, ils ont un très faible club aussi.
C'est ça. Oui, ils ont des jeunes.
Ils ont des jeunes, mais ben, c'est plus la moche aussi.
C'est ça. Puis c'est plus Kenny Holland aussi comme DG, là, mais quand même. Là, c'est la preuve que les circonstances peuvent aussi.
Des fois, c'est facile d'être patient quand un bon club, ça l'aide un petit peu.
Exactement.
Messieurs, autre question, puis je termine là-dessus. Les États-Unis ont annoncé un boycott diplomatique pour les Jeux olympiques de Pékin. Ça, c'est pas les joueurs, mais il y aura pas de représentant officiel des États-Unis pour les prochains Jeux olympiques de Pékin en Chine. Est-ce que, selon vous, les étoiles de la Ligue nationale, des différentes nations qui vont se pointer, est-ce que ça peut mettre en péril la participation des joueurs de la Ligue nationale aux Jeux olympiques de Pékin, Alexandre?
Je serais vraiment étonné que ce soit la raison pour laquelle ils n'y vont pas. S'ils ne vont pas, ça sera plutôt en raison de la COVID. Mmh. Ce qui fait peur un petit peu aux joueurs présentement, c'est que si tu pognes la COVID là-bas, t'es isolé pendant trois semaines dans un hôtel du gouvernement, ce qui doit pas être les plus belles circonstances. Ça doit pas être Ritz-Carlton, non, on s'entend. Je pense que s'il y a des joueurs qui ne vont pas, ce matin, il y a un premier joueur qui a décidé de ne pas y aller, d'ailleurs, Robin Lehner. Si ça arrive, c'est à cause de la COVID. Et non pas en raison, là, par exemple, de l'histoire de la joueuse de tennis ou du génocide envers les Ouïghours. Il pourrait avoir de la pression, tu sais, l'association des joueurs, des lobbies pourraient faire de la pression, mais j'ai l'impression que même s'il en venait à une décision finale, il irait tout ça à la COVID.
De toute façon, la Ligue nationale est clairement pas la ligue la plus politisée, disons, au monde. Ouais. Donc je les vois pas prendre une aussi grosse décision basée sur des considérations politiques. Je pense pas que ce soit dans la culture du hockey d'aller là. Et oui, je rejoins Alex. Tu parles des joueurs qui seraient réticents aux trois semaines de quarantaine. Pensez aux équipes aussi, là. Je reprends l'exemple de John Tavares parce qu'il s'est blessé à Sochi, là. Tu parles de John Tavares qui est en isolement pendant trois semaines, juste avant ton stretch final de la saison, isolé dans une chambre d'hôtel en Chine. T'es pas content. Donc ça, c'est d'un point de vue d'équipe et du point de vue de la ligue en général. Oublions pas aussi que la COVID commence à faire des siennes aussi. Il y a des équipes qui ont raté des matchs, tout ça. Si ça continue comme ça et que le calendrier est bousculé, la ligue va continuer à être réticente là, à y aller.
Mais on va quand même inviter les gars à Las Vegas pour un match des étoiles.
Ça comprends pas plus que
Stéphane,
toi.
Stéphane, tu comprends ça, toi? Le fait que, malgré qu'il y a la COVID, on invite les gars dans un match des étoiles à Las Vegas.
Ouais, c'est spécial un petit peu, ça, là, mais sauf que, je sais pas, mais pour venir aux Jeux olympiques, je suis certain que les joueurs veulent gagner l'or pour le pays. Ça, c'est, les joueurs adorent ça, adorent ce tournoi-là, puis c'est pas les joueurs, la politique, là, c'est pas le
non.
Il y a rien de politique au niveau des autres. Eux autres, c'est de gagner la médaille d'or. Un gars comme Carey Price, lui, il veut gagner la médaille d'or. Ouais. Ovechkin, comme une fois qu'il a dit, ben, moi, là, c'est sûr que même si la Ligue nationale, il va pas, moi, je veux y aller. Et puis, non, pour eux autres, c'est une question de sport uniquement. Je pense pas qu'ils vont mêler la politique. Pour ce qui est de Vegas, c'est spécial un petit peu. Là, si il invite les joueurs là pour un match des étoiles, là, tu risques de contaminer toutes les étoiles de la ligue. Ben, oh, il y en a
qui ne seront pas contents. C'est arrivé au baseball cette année au match des étoiles où un joueur des Yankees a contaminé plein de joueurs de d'autres équipes. Ah, ouais. Puis je ne sais pas combien d'équipes en 14e.
On aurait dû apprendre de ça.
Ben, exactement. Je pense que les femmes ne sont pas invitées non plus. Il faut qu'ils soient isolées. Écoute, d'après moi, ça ne fera pas le bonheur de nos étoiles de la ligue.
Il reste deux mois avant ça. Moi, je vous jure qu'il va y avoir pas mal de brassage d'ici.
Ça va nous donner plein de sujets de conversation en sortie de zone. Ça, c'est le fun. C'est super intéressant. Messieurs, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Gros merci à Alexandre Pratt de La Presse. Merci d'avoir été là. Guillaume Lafrançois, gros merci, Guillaume.
Merci,
encore
Gérard.
Une fois, félicitations pour ton boulot et arrête de nous sortir des nouvelles juste avant l'enregistrement du balado. Stéphane White, toujours un plaisir. Merci d'avoir été là, Stéphane.
Merci beaucoup, les gars. C'est trop court. Merci.
Et voilà, on se reprend dès la semaine prochaine, en fait, dès vendredi pour le 19e épisode du balado Sortie de zone.